toujours pris par surprise par Anne, lorsqu'il faut présenter au pied levé un conférencier, même lorsque je connais le conférencier, non seulement de réputation, mais en plus à travers certains de ses ouvrages. Et personnellement, je n'ai pas une mémoire qui me permet de tout rétablir dans le bon ordre, et comme il convient. Donc, Anne a la bonne idée de donner un petit papier. Donc, monsieur Gauthier, vous êtes directeur de recherche à l'École pratique des hautes études, en sciences historiques et philologiques, c'est la quatrième section. Vos travaux se situent au croisement de l'histoire naturelle, de l'histoire des sciences et de l'histoire des textes, et ils portent sur les modes médiévaux de perception et de représentation de l'espace cosmographique et géographique. Ptolémée, évidemment, en est une part fondamentale. Et cela tel qu'il s'exprime dans divers genres de documents, traités de philosophie naturelle, géographie descriptive, portulans, cartes, etc. Alors parmi les éditions de textes que vous avez publiées, il y a la Descriptio Mappae Mundi de Saint-Victor, texte inédit avec introduction et commentaires dans les études augustiniennes en 1988, Carte marine et portulan au XIIe siècle, le Liber de Existentia Riberiarum et Forma Maris Nostri Mediterranei, texte écrit à Pise aux environs de 1200, et vous l'avez publié au presse de l'École française de Rome en 1995. Du Yorkshire à l'Inde, une géographie urbaine et maritime à la fin du XIIe siècle, attribuée hypothétiquement à Roger de Hauden Chedreau en 2005, et évidemment de nombreux articles, dont certains ont été réunis dans le volume Géographie et culture, la représentation d'espace du 6e au 12e siècle, et cela dans la collection des Collected Studies Series en 1997. Vous avez publié récemment la réception de la géographie de Ptolémée la fin du XIVe au début du XVIe siècle. C'est un peu de cela que vous allez nous parler ce soir, je crois. Et tout cela dans The History of Cartography, au Chicago University Press. Et vous êtes membre du comité scientifique de plusieurs revues et vous dirigez la collection Terrarum Orbis chez Wrapples. Donc, vous avez un magnifique tableau de savants, chercheurs dans le domaine de la cartographie en particulier, de la connaissance de l'univers et de l'homme au Moyen-Âge. Et je dois dire que, d'une part, je suis très, très heureux de vous entendre ce soir, que je regrette toujours que notre public est un peu fondu au fil des années, et qu'en particulier, nous n'ayons pas encore rétabli tout à fait dans les cursus universitaires ce qui se faisait ici, ce qui était innovant et qui l'est toujours, je crois, qui le serait si nous arrivons à rétablir une situation, une relation avec les étudiants au niveau master en particulier, un peu meilleure. Et je suis très heureux d'avoir cette occasion de vous accueillir, même si tout ce que j'ai dit, ma foi, je l'ai emprunté et que je le tenais absolument de seconde main, monsieur de Marandard. Donc, je lui rends son
merci beaucoup, Gabriel.
Bien, merci. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation qui me rappelle mon séjour, ma venue ici il y a une dizaine d'années, devant une foule, effectivement, comme vous le signalez, qui m'avait beaucoup étonné. Je vais essayer de faire aussi bien que la dernière fois, comme je le disais tout à l'heure, de faire aussi bien que Barack Obama. Je l'espérais, peut-être n'y arriverai-je pas ce soir. Donc merci pour votre invitation. Alors vous avez évoqué cette publication récente dans The History of Cartography parue aux États-Unis. Je ne vais pas parler exactement la même période chronologique. Ce que je vais présenter aujourd'hui relève d'un ouvrage plus général qui devrait paraître à la fin de cette au printemps ou au début de l'été, qui aura pour titre la réception de la géographie de Ptolémée en Occident du IVe siècle, c'est-à-dire dans l'Antiquité tardive, jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à notre XVIe siècle. Et le titre que j'ai donné à mon intervention ce soir devrait paraître surprenant, puisque tout le monde sait ou croit savoir que la géographie de Ptolémée en Occident ne réapparaît qu'au début du XVe siècle, à la suite d'une traduction opérée à Florence, dans le milieu humaniste florentin. Le titre de ma communication, de mon intervention ce soir, porte sur la période antérieure à cette « redécouverte » entre guillemets de la géographie de Ptolémée, c'est-à-dire à la connaissance, à ce que je crois être, la connaissance indirecte de la géographie de Ptolémée dans l'Occident latin du VIe au XIVe siècle. Donc, je vais d'abord présenter un peu rapidement Ptolémée avant de venir d'entrer dans le vif du sujet. On ne sait rien de la vie de Ptolémée, savant universel qui vécut à Alexandrie au IIe siècle, auteur de traités de mathématiques, d'optique, de musique, d'astrologie, d'astronomie et de géographie, traités qui exercèrent une influence durable pendant plus d'un millénaire dans le monde grec, syriaque, arabe et latin. Des données provenant de ses œuvres permettent de supposer que son Floruit est à situer vers le milieu du IIe siècle. La Mégale Syntaxis, plus connue sous le titre d'Almageste, transmis par la traduction arabe, cette Mégale Syntaxis présida à la compréhension des mouvements planétaires jusqu'à Galilée. La Tétrabible procura pendant plus longtemps encore les bases scientifiques de l'exercice, j'insiste sur le mot science, les bases scientifiques de l'exercice de la science astrologique. Malgré les erreurs que, de façon anachronique, on lui a reprochées, le génie de Ptolémée, associant l'imagination créatrice et la profondeur de l'analyse, éclate dans le moindre de ses développements. Le texte qui va m'occuper ce soir, la Geographicae Euphégesis, comme son nom l'indique, instruction pour dessiner une carte du monde, est un manuel de cartographie qui contient, outre une map monde et des cartes régionales, trois séries de données. Une énumération de milliers de noms de lieux définis par leurs coordonnées de longitude et de latitude, une discussion sur la meilleure méthode pour représenter la Terre habitée de façon ressemblante en fonction des sources de nature diverses, observations astronomiques, mesures itinéraires sur Terre et sur mer, et de la comparaison de ces sources. Et enfin, une série d'instructions en vue de construire des cartes souvent désignées du terme inadapté de projection, anachronique et inadapté de projection, qui relève en fait d'un bricolage géométrique ad hoc. Aucun autre texte antique ne traite son objet de cette façon à la fois théorique et pratique, ni ne renferme une telle masse de toponymes précisément localisés. Voici un exemple donc, de la map-monde de Ptolémée, après l'exemple grec qui a été présenté en premier. Un exemple suivant concerne la map-monde latine, traduite en latin, à partir du XVe siècle. Jusqu'au VIe siècle, sous forme complète ou résumée, l'œuvre de Ptolémée fut assez largement disponible en divers lieux de l'Empire, notamment à Alexandrie, à Constantinople et à Rome. Mais, pour les auteurs qui la citaient ou l'utilisaient, elle ne fut qu'une autorité parmi d'autres, à la différence du jugement moderne sur la géographie de Ptolémée, qui considère qu'il s'agit d'un texte profondément scientifique, naturellement scientifique, par nature scientifique, la géographie descriptive dominée dans l'Antiquité tardive et la géographie mathématique scientifique de Ptolémée resta sans postérité immédiate. Selon une opinion courante que je rappelais en commençant, cette absence de Ptolémée, géographe, se serait prolongée pendant près de 1000 ans et la géographie ne serait réapparue qu'au début du XVe siècle, produisant alors d'importantes modifications dans la représentation et la perception de l'espace. Je souhaite montrer que les choses sont plus compliquées et que l'œuvre ne fut jamais oubliée en Occident et qu'elle eut, à partir du XIIe siècle, une influence effective sur la représentation de l'espace. Pour cela, j'examinerai la documentation selon trois axes. Premièrement, les traces de la connaissance indirecte du contenu de la géographie avant le début du XVe siècle, avant la traduction latine du texte grec. Deuxièmement, les réflexions sur la notion et sur l'application géographique des coordonnées de longitude et de latitude avant l'époque de la traduction. Et enfin, le rapport de ces réflexions avec des cartes effectivement réalisées avant, encore une fois, avant la traduction de la géographie au début du XVe siècle. Loin de disparaître après le VIe siècle, le souvenir non pas la géographie elle-même, mais son souvenir. Le souvenir de la géographie se répandit largement grâce à la tradition de deux textes de l'Antiquité tardive qu'il a mentionnés, les Gettica de Cassiodore Jordanes, qui sont une histoire des migrations des Goths, c'est le premier texte, et d'autre part, les Noces de Philologie et de Mercure de Marcianus Capella, qui sont une encyclopédie des arts libéraux composée au Ve siècle. Par suite de la large diffusion des Gettica, où la géographie de Ptolémée était citée à propos de la Scandinavie, qui était l'origine des Goths, selon les deux auteurs, Cassiodore et Jordanes, les deux auteurs de ce texte. Donc, par suite de la large diffusion de ces Gettica, un public d'apport monastique, puis plus large, fut mis au courant de l'existence d'un Ptolémée qualifié d'orbis descriptor egregius, c'est-à-dire auteur célèbre d'une description du monde. Il arriva même au XIIe siècle qu'un moine bavarois qui avait lu Cassiodore, qui avait lu Jordanes, les Gattica de Jordanes, fasse des recherches bibliographiques pour tenter de retrouver l'œuvre ainsi mentionnée dans le texte des Gettica. D'autre part, Marcianus Capella, l'encyclopédiste du Ve siècle, avait évoqué la mesure de la circonférence terrestre calculée par le géographe Ptolémée, et le terme est employé, géographus, géographe. Ce passage de l'encyclopédie de Marcianus Capella fut abondamment commenté dans les écoles carolingiennes. L'encyclopédiste expliquait que le zodiaque étant divisé en 360 parties du ciel, qui parviennent au centre de la Terre, de telle sorte que la largeur d'une partie, c'est ce qu'on appellera degré à partir du XIIe siècle, la largeur d'une partie à la surface de la Terre comporte 500 stades, la circonférence totale de la Terre faisant donc 180 000 stades ou 22 500 milles. La Terre, ce renseignement transmis par Marcianus Capella, commenté par les savants carolingiens, permet donc de conclure que ces savants carolingiens pensaient la surface terrestre comme une surface quadrillée par un réseau de lignes résultant de la projection de grands cercles et de parallèles célestes. Les caractères spécifiques du livre de Ptolémée, du géographe Ptolémée, restaient toutefois voilés, ni les méthodes de projection cartographique, j'emploie projection avec guillemets, muni de guillemets, ni les listes de coordonnées permettant de construire des cartes n'étaient évidemment encore connues. Les choses changent, en partie, au XIIe siècle. Comme on le sait, un courant de traduction permit à l'Occident de récupérer une partie de la science grecque augmentée des spéculations arabes, notamment en astronomie et en astrologie. Or, la géographie était explicitement mentionnée dans plusieurs traités arabes. C'est une histoire complexe que je vais tâcher de résumer très rapidement, avant d'aborder les effets concrets de ces évocations de la géographie de Ptolémée à travers les textes arabes, d'origine arabe. Dans plusieurs traités d'astrolabe, tout d'abord, et plusieurs traités d'astronomie provenant de la péninsule ibérique, la géographie de Ptolémée, le titre même de la géographie, apparaît sous sa forme arabe. On trouve dans les traductions latines « liber algarafié », qui transcrit « al-geographia », ou « guérafié ». On trouve soit le titre transcrit à partir de sa forme arabe, soit à travers des équivalents latins comme figure terrae liber, le livre de la figure de la terre, ce qui transcrit directement l'arabe Kitab Surat al-Ard, le livre de la figure de la terre, de la forme de la terre. Et on trouve par exemple aussi dans ces traités latins figure terrae liber qui vocatur hierafié, avec à la fois la traduction latine et le titre arabe transcrit sous la forme hiérarchie. D'autre part, cette géographie est identifiée dans ces textes traduits, elle est identifiée par son contenu. On sait qu'il s'agit d'un recueil de coordonnées de longitude et de latitude, et qu'il s'agit d'une description de la terre habitée. Qui plus est, je parlais jusqu'à présent surtout de traités d'astrolabe, qui plus est, des traités d'astronomie latins, des traités autonomes, originaux, élaborés par des latins, et non plus des traductions. Des traités originaux utilisent explicitement des données provenant de la géographie à travers le filtre arabe. Parmi d'autres, je citerai Le Liber Mammonis, composé vers 1120-1130 à Antioche par un latin. Le Liber Cursum Planetarum, livre du cours des planètes, écrit à Marseille en 1140 par un nommé Raymond, l'un et l'autre étant sans doute en rapport avec l'école de Chartres. Et enfin, le traité De Essensis, traité philosophique, De Essensis, de philosophie naturelle et de philosophie de façon plus générale, d'Hermann de Carinthie, qui date lui aussi d'environ 1140. Tous trois réemploient ces données connues par des traductions de l'arabe, soit pour définir les limites de la terre habitée, soit pour la décrire de façon sommaire, soit encore pour introduire des listes de coordonnées de longitude et de latitude. Nous étions au XIIe siècle jusqu'à présent. Au siècle suivant, au XIIIe siècle, le souvenir de la géographie se perpétua par le biais de l'astrologie, grâce à d'autres traductions effectuées pour le compte d'Alphonse le Savant en Castille. C'est alors que s'imposa la figure d'un Ptolémée à la fois astrologue et géographe, figure qui influença de façon profonde la théorie et la pratique de l'astronomie et de la cartographie. Ainsi, dans la traduction du traité d'astronomie d'un personnage qui s'appelle Ibn al-Haytham, c'est en latin Alhazen, dans cette traduction de son traité d'astronomie, est cité le livre des lieux habitables, dit aussi livre intitulé Mappemonde de Ptolémée, Liber qui vocatur Mappamundi de Ptolémée. C'est une référence à la géographie, bien évidemment, avec un encore plus net, puisque, je vais y revenir, le latin utilise le terme technique qui désigne la carte dans le monde latin. Un autre traité astrologique, le De Judiciis Astrorum, des jugements des astres, de l'arabe Ali Aben Rajel, évoque le livre où Ptolémée, je cite, nomma les cités, les îles et les mers. Et enfin, un troisième traité astrologique, c'est le commentaire d'Ali Ibn Ridwan au traité d'astrologie de Ptolémée. Ce texte développe les rapports entre astrologie et géographie tels qu'ils sont déduits d'une confrontation soigneuse entre le traité d'astrologie de Ptolémée, le Quadripartitum ou la Tétrabible, suivant son titre grec, tels qu'ils sont déduits donc de la confrontation entre ce Quadripartitum et le livre sur la map-monde du même Ptolémée. Pour les lecteurs de ces textes, l'œuvre qu'ils ne connaissaient pas, l'œuvre de Ptolémée qu'ils ne connaissaient pas directement, se présentait comme un recueil de coordonnées tout en étant de nature cartographique. Ils savaient que s'ils en avaient disposé, ils auraient pu déterminer exactement la place d'une cité ou d'une région à l'aide du réseau des coordonnées de longitude et de latitude. Le commentaire d'Ali Ibn Ridwan fut très lu en latin comme en français, puisqu'il y eut des traductions en français. Pour illustrer la diffusion de ces notions, je me bornerai à signaler, je pourrais donner de nombreux exemples, issus d'autres domaines que le domaine de l'astrologie ou de l'astronomie. Pour illustrer, je me bornerai à signaler le discours prononcé en 1367 par l'envoyé du roi de France devant le pape à propos du choix du siège de la papauté. Parmi des arguments de nature diverse, l'orateur, qui s'appelait Ansel Chocard, justifie le choix de Marseille en se référant dans le même mouvement à l'autorité en matière astrologique et à la carte. Je le cite, « Marseille, dit-il, est située au milieu de l'Europe, c'est pour cela qu'il faut la choisir, et c'est ce que démontrent les cosmimétrés, ceux qui mesurent le monde, cosmimétrés. C'est-à-dire ceux qui... C'est moi qui dis les cosmimétrés, je traduis ceux qui mesurent le monde, mais voici ce que dit Ansel Chocard, c'est-à-dire ceux qui mesurent la carte du monde à partir de la théorie de Ali Ibn Ridwan, le commentateur de Ptolémée, au chapitre 7 du deuxième livre du Quadripartitum, et d'Alfraganus au chapitre 7, Alfraganus est un autre, Alfargani, un autre astronome arabe, en considérant ses longitudes et ses latitudes des cités chrétiennes, excepté la Grèce, qui est aujourd'hui schismatique. Les savants latins, et au-delà même des savants, des astronomes et des astrologues, connaissaient donc le contenu, sans l'avoir jamais eu entre les mains, le contenu de la géographie de Ptolémée, ou tout au moins une grande partie de son contenu. À la différence de l'Antiquité, je passe maintenant au deuxième point, et contrairement à ce qu'une connaissance superficielle de la géographie médiévale conduirait à penser sur ce point, Le Moyen-Âge a largement mis en œuvre les coordonnées géographiques dans le domaine de l'astronomie et de la philosophie naturelle. Un exposé, d'abord, dès le Moyen-Âge, un exposé pédagogique traduit du grec, provenant en dernière analyse des enseignements de Ptolémée, avait diffusé la notion des coordonnées dès le VIe siècle, mais l'idée de distance angulaire, qui est à la base de la notion de coordonnées, restait sans doute assez difficile à maîtriser pour le commun des intellectuels de ce temps, autant que pour les savants de l'Antiquité. Les notions de coordonnées, la notion notamment de latitude dans l'Antiquité a été très peu employée, très peu étudiée de façon théorique, et très peu de coordonnées ont été effectivement mesurées avec des moyens astronomiques. À partir de la fin du XIe siècle, toutefois, l'usage de l'astrolabe et des tables astronomiques rendit plus familières les méthodes de mesure de la longitude et de la latitude. Comme l'écrivait l'auteur d'un traité d'astrolabe au début du XIIIe siècle, je le cite, « Les canons des astrologues, c'est-à-dire les règles des astrologues, sont remplis de moyens de trouver la latitude des régions. » D'autre part, les tables astronomiques dressées pour un méridien donné comportaient des listes de coordonnées géographiques pour un petit nombre de lieux qui, à l'origine, appartenaient exclusivement aux zones contrôlées par les musulmans, mais rapidement complétées de lieux situés en Europe. Leur utilisation, l'utilisation de ces tables astronomiques sur un méridien différent de celui pour lequel elles avaient été calculées, impliquer des calculs pour les adapter afin de pouvoir déterminer de façon précise les mouvements planétaires. La connaissance des coordonnées d'un lieu trouvait d'autre part des applications pratiques, notamment en médecine. L'un des premiers savants latins a synthétisé les efforts des traducteurs hispaniques du XIIe siècle en adaptant la tradition astrologique arabe au monde chrétien, fut l'astrologue de Frédéric II, que tout le monde connaît, Michel Scott. Dans un ensemble de 3 traités dédiés à l'empereur, il justifie l'importance de l'astrologie pour diverses activités. Je le cite, « Elle est nécessaire et délectable, dit-il, aux médecins pour les malades, aux rois et aux barons pour déterminer ce qu'ils doivent faire, aux marchands à cause de leur route et de leur commerce, aux marins à cause des variations de l'air et de la mer, aux alchimistes, aux nigromanciens et aux notaires, et à cause de toutes les activités qui sont déterminées par les constellations. » Le savoir sur les coordonnées est évidemment lié à l'astrologie. Pietro d'Abano, qui étudia à Paris avant d'enseigner Aristote et Averroès à Padoue, affirme à la suite de l'astrologue arabe Al-Bumassar, « Les médecins ont besoin de la science des astres pour connaître avec la plus grande certitude les racines de leur magistère. » Roger Bacon, de même, souligne que les maladies sont déterminées lors de la conception de l'embryon et lors de la naissance, en fonction de la position des astres, et qu'ainsi, leur nature et leur évolution peuvent être comprises par l'astrologue. Un peu plus tard, un autre astrologue, astronome, Cecco d'Ascoli, commente son commentaire à la sphère de Sacrobosco par cette affirmation « Il est de toute nécessité que le médecin sache et examine les natures des étoiles et leurs conjonctions de façon à connaître les différentes maladies et leurs jours critiques, puisque la nature elle-même subit des altérations selon les aspects et les conjonctions des corps supérieurs. » Nicolas de Paganica, autre médecin astrologue qui écrivit au XIVe siècle un traité démontrant l'importance des connaissances astrologiques pour la pratique médicale, ne se borne pas à ce genre de généralité sur l'utilité de l'astrologie, et à propos de la détermination du lieu des planètes, il évoque les tables astronomiques ainsi que l'emploi de l'astrolabe, et il se vante d'avoir conçu un cadran nouveau à l'aide duquel il est possible de déterminer aisément toute une série de données utiles, la hauteur du soleil et des étoiles, l'entrée du soleil et de la lune dans un signe, la hauteur méridienne du soleil, les éléments de l'horoscope, ainsi que les longitudes et les latitudes des régions, dont dépendent d'ailleurs une grande partie des phénomènes que je viens d'énumérer. Plus précisément encore, à propos des interrogations astrologiques, il recommande de faire l'horoscope avec l'astrolabe ou le cadran. Ce qui importe pour la réception de la géographie, c'est que les influences célestes pouvaient donc être mieux comprises grâce à la détermination des coordonnées des lieux et que ce savoir était considéré depuis le XIIe siècle comme efficace pratiquement. Il subsiste d'ailleurs de nombreux témoignages de réflexions sur les coordonnées géographiques en rapport avec l'espace terrestre. Guillaume de Saint-Cloud, un astronome parisien, dédia vers 1290 un calendrier à la reine Marie, deuxième femme de Philippe le Hardy. afin de mieux connaître, afin de faire connaître la durée du jour au long de l'année pour les lieux situés aux latitudes voisines de Paris. Alors vous voyez que ce savoir ne reste pas confiné dans le domaine, dans le milieu des astronomes, astrologues, qu'il se développe chez des laïcs, dans ce cas-là, évidemment, au plus haut niveau, mais on a d'autres exemples de diffusion dans l'aristocratie laïque de ce type de connaissances. Selon Guillaume de Saint-Cloud, la connaissance de la latitude, dont dépend la durée du jour, est utile non seulement aux médecins, qui modulent selon elle la qualité et la quantité de leur médecine, mais aussi aux voyageurs, et il relève que l'on pourrait parcourir la Terre habitée en se dirigeant sur un parallèle de façon plus facile qu'en suivant un méridien, car les conditions naturelles varient beaucoup moins en longitude qu'en latitude, ce en quoi il avait raison. D'autre part, dans un almanach planétaire écrit peu après, en 1292, il exprime des critiques à l'encontre des prédictions de diverses tables astronomiques, prédictions qui sont en contradiction avec ses propres observations. Pour expliquer les différences, il détermina la valeur de l'obliquité de l'écliptique à l'époque de l'équinoxe au printemps 1290, ce qui se faisait en mesurant la hauteur du soleil et donc la latitude, puisque la hauteur du soleil dépend aussi de la latitude. Et il calcula, comme d'autres l'avaient fait avant lui, comme d'autres le feront après lui, on va en voir des exemples, la latitude de Paris en l'établissant à 48 degrés 50 minutes. La critique des tables astronomiques sera poursuivie par d'autres astronomes, à cause d'une mauvaise appréciation d'un phénomène qui s'appelle la précession des équinoxes, c'est-à-dire le fait que l'axe de la Terre n'est pas immobile et varie très faiblement sur de longues périodes de temps. À cause de cette précession des équinoxes, les prévisions temporelles faites à l'aide des tables astronomiques ne correspondaient pas à la réalité des observations, qu'il s'agisse des éclipses ou des conjonctions planétaires. Un effet de grande conséquence était le retard du calendrier, dont la réforme commença à ce moment même à préoccuper la papauté et les astronomes. Les fêtes religieuses mobiles, en effet, qui étaient fondées sur le calendrier lunaire, n'étaient plus en accord avec les phénomènes célestes. Un autre astronome, Jean de Murs, maître à la faculté des arts de Paris et membre de la maison de Philippe d'Evreux, roi de Navarre, nota dans les marges d'un manuscrit les observations approfondies qu'il effectua en divers lieux à ce sujet, entre 1318 et 1344. Hauteur du soleil aux environs de l'équinoxe, ce qui permet d'obtenir directement la latitude, moment des éclipses, et en conséquence, détermination de longitude et de latitude. Dans plusieurs cas, la répétition des observations que faisait Jean de Murs était destinée à approcher au mieux la valeur recherchée, souci de précision remarquable, quoique non exceptionnel, et qu'il me plaît de souligner, étant donné qu'on peut observer en ce moment une certaine tendance à affirmer que la notion de mesure précise n'existait pas au Moyen-Âge. Dans un autre domaine, plus directement lié à la vie quotidienne, la détermination des coordonnées géographiques était tout aussi essentielle. L'établissement de l'horoscope, dont la vogue se développa à partir du XIIe siècle et atteignit son point culminant au XIVe et XVe siècle, imposer de déterminer le point d'intersection de l'horizon et du zodiaque à un moment donné, au moment de la naissance ou de la conception, ce qui dépend de la latitude du lieu. Pour ne prendre qu'un seul exemple, le chancelier de la cathédrale d'Amiens, Richard de Fournival, qui était fils d'un médecin de Philippe Auguste, laissa un écrit de cette sorte, ce qu'on appelle une biographie astrologique, où il prit soin de noter les coordonnées de la ville où il était né, avec l'heure exacte de sa naissance, le 9 janvier 1200. Par les traductions, à partir du XIIe siècle, on eut donc connaissance du contenu de la géographie de Ptolémée, partiellement. Dans un cadre astrologique et astronomique, on disposa de la notion des coordonnées et celles-ci firent l'objet de calculs. Pour parachever le tableau, il me reste à examiner si ces préoccupations trouvèrent une application cartographique. Ce que je vais montrer en présentant les choses à rebours de l'ordre chronologique. Chez certains astronomes astrologues, le souci de quantification de l'espace, qui était le support de leur activité scientifique, entraîna une réflexion sur les moyens d'obtenir des valeurs les plus exactes possibles. On vient d'en voir un exemple avec Jean de Murs, en voici un autre. Cela impliquait la systématisation et la généralisation des données et, éventuellement, une représentation cartographique conforme. Dans le manuscrit de travail du mathématicien et astrologue florentin Paolo Dagomari, mort vers 1370, se trouvent quatre tables de coordonnées géographiques indiquant, entre autres, la différence de longitude entre plusieurs cités du monde habité avec celle de Florence. Alors, après cet autre exemple de la mappemonde ptoléméenne, voici comment se présente un double feuillet du manuscrit de travail de Paolo Dagomari, où il notait ses observations et ses calculs. Ce qui l'intéressait, c'était de déterminer l'heure des éclipses en différents lieux de la Terre. Et voici par exemple, malheureusement, ça passe vite, je ne l'ai pas. Ça c'est dû à mon... Ah voilà, voilà. Voici un exemple, toujours dans le même manuscrit, d'un feuillet, où sont représentés différents aspects de la même éclipse, c'est-à-dire la plus ou moins grande occultation du disque de la Lune, en différents lieux de la Terre, sont représentés l'aspect à Alexandrie, à Tunis, entre autres, je le dis de mémoire, et à Marrakech, ceci étant fondé uniquement sur le calcul. Ce qui intéressait donc Paolo Dagomari, c'était de déterminer l'heure des éclipses en différents lieux de la Terre. Les coordonnées des géographiques des tables qui se trouvent dans son manuscrit sont calculées à partir de ce qu'il appelle la map-monde de Majorque. Alors on trouve cette remarque ici, au bas d'une table, d'une de ces tables de coordonnées, dans laquelle il est dit, il s'agit d'une note dans laquelle il est dit, je ne traduirai pas, je ne citerai pas le texte mot à mot, mais je traduis, je donne l'idée qui y est exprimée, toutes ces longitudes sont calculées à partir du Mappamondi da Maiolica, de la Mappamonde de Majorque. C'est-à-dire d'une carte d'origine majorquine, on sait ce que c'est. Cela relève de ce qu'on appelle la cartographie majorquine, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une carte où les côtes méditerranéennes sont représentées à la façon des cartes marines, mais où l'ensemble du monde habité est aussi figuré. Alors l'exemple le meilleur de cette cartographie majorquine, c'est ce que tout le monde connaît, l'Atlas catalan qui se trouve à la Bibliothèque nationale à Paris et qui est grosso modo contemporain des travaux de Paolo Dagomari. Voici l'Atlas catalan, la partie de l'Atlas catalan qui représente l'Asie centrale, l'Arabie et l'Asie centrale, l'Asie proprement dite et l'Extrême-Orient. Comment peut-on déterminer, on peut vérifier tout simplement que c'est bien une cartographie de ce type qu'a utilisé Paolo Dagomari, parce que les noms de lieux qu'il cite, qu'il énumère dans ses tables, sont des noms de lieux qui se trouvent sur ce type de carte. Par exemple, Cambalic, Pékin, c'est la désignation de Pékin qui émane du récit de voyage de Marco Polo et qui se retrouve sur ce type de cartographie. Comment a-t-il procédé ? La distance entre deux endroits fut ainsi mesurée sur la carte à l'aide de l'échelle, puisque ces cartes comportent une échelle, puis convertie en distance angulaire, mais sans la correction rendue nécessaire par le fait que la valeur en milles du degré de longitude varie selon la latitude à la surface de la Terre. Il se livra à d'autres calculs, toujours à partir de la map-monde, la façon de trouver les endroits où s'aperçoit le maximum de l'éclipse, en tirant, dit-il, des lignes d'un lieu à l'autre sur la carte. Détermination des lieux où l'obscurcissement est plus grand ou plus petit qu'à Florence. Enfin, calcul de latitude. Les mesures de Paolo Dagomari ont été effectuées sur une carte qui ne pouvait pas être à cette date une carte ptoléméenne comportant un réseau de méridiens et de parallèles. C'était impossible, on n'en disposait pas. Il interpréta les renseignements sur la géographie de Ptolémée qu'il avait lu dans les traités d'origine arabe et dans les traductions de l'arabe comme pouvant s'appliquer aux cartes marines, parce qu'il tenait, avec tous ses contemporains, comme tous ses contemporains, il tenait ses cartes marines comme parfaitement exactes et correspondant à la réalité géographique. En formulant autrement cette conclusion, je dirais qu'il ne voyait aucune contradiction, la contradiction que nous, modernes, serions tentés de voir et qui n'existe pas au Moyen-Âge et qu'il ne faut pas plaquer sur les réalités médiévales. Il ne voyait aucune contradiction entre deux modes de représentation, la carte marine à l'échelle, d'une part, le réseau de coordonnées qu'il imaginait à la surface de la Terre, d'autre part, puisqu'il était bien forcé d'imaginer, puisqu'il ne disposait pas de la cartographie ptoléméenne. Paolo da Gomari travaillait sur une carte qui n'était pas munie de coordonnées. L'inverse, c'est-à-dire la réalisation de cartes à partir de coordonnées, suivant l'exemple de la géographie telle qu'elle était présentée dans les textes arabes, comportait bien plus de difficultés. C'est ce que montrent, au siècle précédent, les travaux d'Albert le Grand et de Roger Bacon, qui tentèrent de les surmonter. Parmi ses commentaires au traité d'Aristote relevant de la philosophie naturelle, Albert le Grand inséra deux traités un peu différents ayant pour but d'expliquer la nature et l'évolution des êtres de toute nature en fonction des propriétés des lieux qui dépendent de l'action des étoiles. Dans un apocryphe pseudo-aristotélicien qui avait été élaboré en Mésopotamie à Bassora au 7e siècle et qui avait pour titre le Decosis Proprietatum Elementorum, des causes des propriétés des éléments, Albert avait appris l'existence d'un ouvrage cartographique consacré à ce que la traduction latine appelait longitudo civitatum, les longitudes, longitudines civitatum, les longitudes des cités. C'était un succès d'année de la géographie, évoqué dans le texte arabe du 7e siècle. C'était un succès d'année de la géographie, qui était aussi, comme beaucoup d'apocryphes, faussement attribué à Aristote. Cet ouvrage introduisait la description précise d'une carte qui était d'ailleurs jointe au manuscrit arabe, comme au manuscrit latin de la traduction. Et en voici un exemple, vous avez sous les yeux le seul exemple de carte arabe traduite en latin au Moyen-Âge. Il s'agit d'une carte arabe, d'un schéma, c'est un schéma cartographique, mais qui représente la mer Rouge, sur laquelle figure la mer Rouge, la Chine, enfin l'ensemble de la terre habitée. En voici un autre exemplaire dans un autre manuscrit. Je peux signaler en passant que cette carte a été attribuée à tort à Albert le Grand. C'est une absurdité. Il n'a fait que transcrire dans son commentaire au texte arabe, à la traduction latine de ce texte arabe, du Decosis, il n'a fait que transcrire la carte qui se trouvait dans la traduction, qui avait été effectuée en Espagne au XIIe siècle. Il est intéressant de voir comment Albert tenta de remplir son programme, c'est-à-dire l'influence des objets célestes sur les lieux de la Terre, en fonction de ces données lacunaires. Il leur fit subir deux modifications. Bien que l'apocryphe, le texte pseudo-aristotélicien, évoqua plutôt des mesures de distance, à propos de longitudo civitatum. Bien que ce texte pseudo-aristotélicien évoqua plutôt des mesures de distance, c'est pourtant en fonction des coordonnées de longitude et de latitude qu'Albert le commenta. Il y avait plaqué donc la connaissance des coordonnées géographiques. Et il insista sur la nécessité de connaître précisément ces coordonnées pour apprécier valablement les effets des astres sur la Terre. On s'attendrait donc à ce que, dans son commentaire, il entre dans des détails techniques et transmette des listes de coordonnées. Il n'en est rien. À la place, il joint ce qu'il appelle « brevis orbis mappa », une brève carte du monde. Mais ça n'est pas une carte, c'est un texte. Ce qui n'a rien d'étonnant, parce que « mappa » au Moyen-Âge désigne aussi bien un texte qu'une description, qu'une carte, qu'une description géographique sous forme de texte. Une brevis orbis mappa, qui n'est donc pas une carte, mais un ensemble de listes géographiques, de noms de lieux, présentés, et c'est là l'important, comme le résultat d'un recensement général de la terre habitée ordonné dans l'Antiquité par l'empereur de Rome. Alors certains historiens se sont gossés d'Albert le Grand, critiquant l'anachronisme dont il aurait fait preuve en donnant comme description du monde, une liste géographique qui remontait de toponymes qui remontait au 5e siècle après Jésus-Christ. Mais c'est ne rien comprendre dans la géographie médiévale. Parce que ce qui était important pour Albert le Grand, c'était que cette liste géographique avait été authentifiée, sanctionnée par l'autorité impériale. L'empereur avait garanti, grâce à la conquête romaine, grâce à la supériorité de la science romaine, avait garanti que cette liste était parfaite, était correcte, sinon parfaite. Donc, alors même qu'il avait conscience de la nécessité de la précision apportée par des chiffres de coordonnées de longitude et de latitude, l'inventaire du monde en vue de mesurer la diversité des habitats humains se réalisait chez Albert Legrand, par un texte purement descriptif, mais authentifié par l'autorité impériale. Comment expliquer ce résultat ? Albert livre à plusieurs reprises une explication technique. Pour dresser une carte selon les coordonnées, il fallait disposer de points bien mesurés, de mesures exactes. Il fallait connaître la longitude et la latitude d'un assez grand nombre de cités. Mais il ajoute ceci, les cités, les villes, les habitats humains ont subi des changements. Certaines villes ont été détruites, d'autres ont été édifiées qui n'existaient pas auparavant. D'autres encore ont changé de nom, ce qui conduit à des équivoques dont il est tout à fait conscient. L'œuvre d'Albert exprime donc une contradiction entre l'idéal de coordonnées exactes et complètes et une documentation contemporaine dont il a parfaitement conscience qu'elle est insuffisante. Pour résoudre cette contradiction, il n'avait à sa disposition que ces listes sans coordonnées, mais dont la valeur était l'exhaustivité garantie par la sanction de l'autorité impériale. En tentant de réaliser, quant à lui, systématiquement, le programme de Ptolémée tel qu'il pouvait être connu à travers les traductions où son œuvre était évoquée, un autre naturaliste, Roger Bacon, alla un peu plus loin. Dans le livre 4 de l'Opus Maius, qui date de 1265, il décrit une carte adressée au pape Clément IV, carte qu'il appelle, du même terme qu'emploie Albert, figura, figure. Cette carte, qui n'a pas été conservée, est décrite à propos d'un exposé sur l'extension de la terre habitable en longitude et en latitude. Son but est de situer exactement les civitates famosae distribuées selon les sept climata de la terre habitée. Un climat, santé à la fin, c'est le terme grec, et climata au pluriel, c'est un espace où la durée du jour le plus long est considérée comme égale. Il y en a sept à la surface de la terre habitée, depuis l'équateur jusqu'au cercle arctique. Donc dans chacun de ces espaces qui sont des espaces parallèles, des bandes parallèles, la durée du jour le plus long de l'année est considérée comme identique. Sachant que la durée du jour le plus long augmente au fur et à mesure que l'on se dirige vers le pôle. C'est un système, ce système des climata était un système d'origine antique qui était connu en Occident par des intermédiaires arabes et qui était un moyen dans l'Antiquité beaucoup plus fréquemment utilisé pour exprimer la latitude que les coordonnées de latitude elles-mêmes. La figura représentait un demi-hémisphère terrestre où l'équateur et un quart de grand cercle et portaient des graduations en degrés pour la latitude et la longitude. La place des cités fameuses était identifiée pour chacune d'elles par un cercle rouge à l'intersection d'une droite parallèle à l'équateur et d'un arc du grand cercle passant par les pôles. On y voyait aussi les lignes qui bornait chacun des sept climata. Elle comportait enfin une série d'indications écrites, l'extension de chaque climat en milles et en degrés, et la durée du jour le plus long dans chaque climat. Comme les coordonnées des cités provenaient de la liste des plus anciennes tables astronomiques traduites en Occident, les tables de Tolède, ce n'est donc guère plus d'une soixantaine de lieues qui devaient y être marquées. Il est prudent de ne pas se prononcer sur la forme exacte de la figura, malgré les tentatives de reconstruction qui ont été proposées, en voici un exemple, et surtout, il est conseillé de ne pas user à son sujet du terme anachronique de projection. Mais Bacon souligne aussitôt l'insuffisance de ce qu'il appelle un artificium, de son procédé technique. Selon lui, en effet, les Latins ne possèdent pas encore le moyen de certifier, c'est le mot qu'il emploie, certificare, de certifier de façon astronomique les coordonnées. Une telle certification ne consisterait pas seulement en des mesures plus efficaces, effectuées par des spécialistes, elle devrait aussi résulter de la sanction de l'empereur, du pape ou d'un roi assez puissant. On retrouve la même idée illustrée par Albert le Grand dans l'exemple que j'ai indiqué il y a un instant. Idée du recours aux listes authentifié par une autorité politique. La valeur et la complétude de ces mesures ne pouvaient être garanties, même si on disposait de mesures exactes, que par une autorité politique. Bacon avait donc conscience du caractère provisoire de la figure offerte au pape, qu'il exhortait à continuer et à achever l'entreprise. Cet effort ne resta pas sans écho. Guillaume de Saint-Cloud, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, note en passant dans son calendrier de la reine que grâce à la connaissance de la hauteur du soleil, aux méridiens de différents lieux, c'est-à-dire connaissance de la latitude, on pourrait dessiner une figure situant non seulement les cités, comme chez Bacon, mais encore les fleuves, les montagnes, les forêts et tous les autres êtres géographiques. Ce ne serait donc plus un schéma, comme ceci, mais une vraie carte qui est ainsi imaginée. Ce que les historiens de la cartographie ont appelé la carte de Roger Bacon, en lui attribuant sans précaution, à mon avis, une modernité exemplaire exceptionnelle, n'est donc que le produit le plus achevé de la tradition indirecte de la géographie de Ptolémée reçue par les astronomes astrologues. L'idée d'une représentation fondée sur les coordonnées ne naquit pas de la capacité d'invention d'un esprit génial, comme Bacon, ce qu'il est certes. La science normale, la science la plus normale de son temps, notamment sous ses aspects astrologiques, en procurait aisément et le principe et l'exemple. Il me reste, pour terminer, à dégager le sens d'une telle conception. Chez Bacon comme chez Albert, la connaissance des lieux du monde et des choses et des êtres soumis à la génération. Le cognitio locorum mundi et rerum generabilium. Cette connaissance doit permettre d'apprécier l'action des corps célestes sur les êtres du monde sublunaire, car toute chose et tout être se trouve dans un locus à la surface de la Terre, et ce locus les contient en tant que, ces choses et ces êtres, locata, corps logé, traduisons. À partir de cette définition d'une, de la plus grande banalité aristotélicienne, la tâche des naturalistes est de caractériser de la meilleure façon les éléments qui constituent le locus, à savoir la longitude et la latitude. Ces coordonnées varient de la même façon que les influences célestes. Il y a des lieux tempérés, il y a d'autres lieux qui sont inhabitables, ou bien, suivant les temps, les conditions naturelles des lieux changent, etc. Il existe une chaîne causale rigoureuse, c'est pour ça qu'il s'agit d'une science, qui lie les corps célestes, la nature des lieux exprimés par leurs coordonnées, et les propriétés des êtres et des choses qui s'y trouvent comme corps logés, locata. Le lieu agit sur ces corps logés, d'autre part, comme la forme sur la matière, et ce sont les coordonnées qui permettent de déterminer les rapports de ces choses avec les cieux et les rapports de la forme avec la matière des lieux. Dans ce cadre conceptuel, le rôle des coordonnées est d'aider à mieux comprendre les influences célestes dans l'espace concret de la vie humaine. Les degrés de longitude et de latitude n'existent donc pas par eux-mêmes ou pour définir l'espace géographique en lui-même. Ils ne sont que la projection sur Terre des degrés qui divisent la sphère céleste. C'est ainsi, par exemple, que Bacon précise, lorsqu'il est question de l'étendue en latitude des climata, je le cite, « Je montrerai encore, avec la latitude de chaque climat, combien de milles chacun contient et combien de degrés répondent dans le ciel à chacun d'eux sur la Terre. » Je peux donner un autre exemple qui est valable pour l'Antiquité comme pour le Moyen-Âge et qui montre bien l'opposition entre notre conception des coordonnées et la conception antique et médiévale de ces mêmes coordonnées. Quand nous voulons situer un lieu, nous disons Rhodes, je prendrai l'île de Rhodes, c'est souvent un exemple antique, est situé à 36 degrés de latitude. Rhodes est situé, l'île de Rhodes est à 36 degrés de latitude. Dans l'Antiquité au Moyen-Âge, on ne dirait pas comme cela. On disait Rhodes est situé sous le 36e degré de latitude, parce qu'il s'agit du degré céleste, dont les coordonnées terrestres ne sont que la projection. Pour Bacon, donc, la certification requise pour recueillir des coordonnées plus justes relève strictement de l'astronomie, non de la géographie. Il s'agit de trouver les vraies longitudes et les vraies latitudes par rapport au ciel, respecto Kelly. Par rapport au ciel, et non pas en fonction de nos intérêts terrestres. Et il regrette que cela ne soit pas encore possible, faute de certification. La fonction de ces coordonnées n'est donc pas de rendre manifeste un espace géographique abstrait et homogène, bien au contraire, c'est-à-dire l'espace qu'on considère comme moderne, bien au contraire, ces coordonnées sont mises en œuvre dans un espace aristotélicien qui est chargé, naturellement, de qualités qui proviennent des éléments qui le constituent. Des êtres qui le constituent. La représentation graphique complète de cet espace à l'aide des coordonnées était donc bien comprise comme un but désirable, mais il ne pouvait être mené à son terme. La raison principale est d'ordre épistémologique, les coordonnées renvoyant avant tout aux causes célestes ultimes des phénomènes terrestres. Il aurait fallu, pour que le travail de collecte soit effectué, qu'existât un intérêt propre pour la représentation terrestre. Et d'autre part, il s'y opposait une raison d'ordre technique. Il était impossible d'obtenir aisément des mesures fiables et exactes, malgré les efforts des savants qui s'y étaient employés. Les savants avaient parfaitement conscience des insuffisances sur ce point des instruments dont ils disposaient, que ce soit l'astrolabe ou le cadran. Tous ces défauts devaient encore longtemps empêcher la réalisation d'une figure considérée comme parfaite. Et lorsque la géographie de Ptolémée réapparut dans la traduction au début du XVe siècle et que la consultation directe remplaça la connaissance indirecte de son contenu avec ses milliers de coordonnées garanties par la rigueur de la méthode de Ptolémée à défaut d'observations rigoureuses et fiables, parce que Ptolémée n'a presque jamais fait d'observations astronomiques pour mesurer des latitudes ou des longitudes. Malgré cela, la géographie de Ptolémée apporta la certification que recherchaient les savants et elle fournit à la fois le moyen et l'exemple d'une cartographie complète. Mais il serait faux de croire qu'avec elle, avec la réapparition de la géographie, les difficultés soulignées par les naturalistes médiévaux disparurent d'un seul coup et que la géographie opéra une rupture avec leur mode de représentation de l'espace. D'autres problèmes apparurent qui étaient liés aux contradictions entre l'image du monde reçue et celle des cartes ptoléméennes, liées aux difficultés de la transposition de la surface sphérique sur un plan, et enfin au manque de mesures de longitude fiables, parce que la latitude est facile à mesurer, la longitude ne sera pas connue rigoureusement avant le XVIIIe siècle, comme chacun sait. Il fallut attendre la fin du XVIIe siècle pour que toutes ces difficultés disparaissent. La réception de la géographie de Ptolémée a connu donc une histoire fort longue et complexe, dont je n'ai présenté ici que le début pour l'Occident. Merci.
J'allais vous interroger, si vous n'en avez pas parlé, sur le manuscrit de Richard Fournival. Je me suis intéressé à Richard, puisque j'ai une édition des Bestiaires d'amour qui doit sortir, c'est dans le prochain. Et j'étais très perplexe devant le manuscrit qui a appartenu à son père, Robert, je crois.
Oui.
Et dont je ne connais en fait que le travail qu'a fait Emmanuel Poole dans un article du bulletin de l'École des Chartes. Et je me demandais quel type de coordonnées précisément étaient utilisées dans ce cas. Pour déterminer l'horoscope de la naissance de Richard, Amiens ce sont les coordonnées d'Amiens qui sont retenues.
Ouais. Celle de la naissance, oui, mais je n'ai pas vu le manuscrit, j'avoue. Je n'ai pas vu le manuscrit, je n'ai aussi qu'une information venant entre autres, de Poole. Ce sont les coordonnées d'Amiens et qu'il prend soin de donner de façon la plus précise possible, étant donné que tout dépend de l'observation, le calcul de l'horoscope dépend de la précision de ces coordonnées.
Si je me
latitude
souviens bien, dans la Biblionomia,
oui.
il y a des ouvrages de mathématiques, et il n'y a pas d'ouvrage qui me semble renvoyé
à l'astrologie.
À l'astrologie, si, ça,
oui, sans aucun doute.
Mais est-ce qu'il est inclus dans les traités astrologiques dont pouvait disposer Richard des données ptoléméennes comme celles que vous avez évoquées?
Faisait partie de la bibliothèque de Richard, si je me souviens bien, le commentaire d'Ali Ibn Ridwan au Quatripartitum de Ptolémée, si je me souviens bien. Oui, donc c'est dans ce texte même que l'essentiel de ce qu'on pouvait savoir sur la géographie de Ptolémée se trouvait.
Ça faisait partie des manuscrits secrets, donc je ne suis pas sûr qu'ils soient dans la bibliothèque, la Biblionomia, dans la transmission.
Ah, pas dans la Biblionomia, mais dans les manuscrits lui ayant appartenu. Le Quadripartitum faisait partie des manuscrits lui ayant appartenu, qui se sont...
Merci.
Qui sont ensuite retrouvés à la...
Il y en a une partie nationale.
À la Sorbonne.
Je voudrais poser une question de Béotien. Les sources de Ptolémée lui-même, quelles étaient-elles ?
En principe, ce devrait être des observations d'ordre astronomique, c'est-à-dire des mesures de la hauteur du Soleil à l'équinoxe pour la latitude et des calculs de différence de moment de l'éclipse en différents lieux de la Terre pour la longitude, pour les longitudes. En réalité, il n'y en a aucune qui vienne de ce type d'observation. Les sources de Ptolémée sont ses prédécesseurs qui avaient eux-mêmes comparé, ce sont ses prédécesseurs, surtout Marin de Tyr, auteur d'un livre de géographie, d'un texte de géographie comportant, et de cartes, comportant des cartes et des longitudes et des latitudes, et surtout le raisonnement à partir des récits des voyageurs et des distances itinéraires entre différents lieux, tels que rapportés par les voyageurs, soit sous forme de distance mesurée en stade, soit beaucoup plus fréquemment en journée de voyage, ce qui implique que les résultats étaient évidemment avaient un caractère tout à fait approché.
Question dont vous voudrez excuser la naïveté. Vous avez parlé de sphère céleste tout à l'heure. Alors, la forme sphérique est effectivement à la base de toute mesure de trigonométrie et de toute mesure d'angle. Mais à quel moment l'idée de sphère appliquée au corps céleste cette fois et à la Terre, à quel moment cette idée est-elle apparue? Parce qu'on a bien l'impression, à travers tout ce que vous dites, que c'est implicite.
Cela va de soi.
C'est implicite. Hein.
Oui, je dirais même que cela va de soi. C'est-à-dire qu'aucun, depuis les philosophes ioniens, dans l'Antiquité, personne n'a jamais douté de la forme sphérique des cieux et de la terre. Personne, jamais. Enfin, peut-être deux ou trois auteurs qui sont toujours qu'on présente toujours comme tenant de la terre plate. Mais enfin, depuis Anaximandre, je pense, personne n'a jamais mis en doute la forme sphérique des cieux, ni celle de la terre. Donc c'est pour les astronomes, astrologues du Moyen-Âge et pour tous les savants du Moyen-Âge en particulier, la forme sphérique de la Terre est quelque chose qui va de soi. Personne n'a jamais pensé dans le Moyen-Âge latin que la Terre n'était pas sphérique. Personne. Absolument personne. Je dis bien Moyen-Âge latin. Contrairement à l'idée qui est assez répandue hein, de l'idée de la Terre plate. Enfin, oui. Personne. Comme peut-être certains dans l'assistance aurait peut-être tendance à ne pas me croire et à croire que je manie le paradoxe, je vais me borner à citer le titre d'un chapitre du De Natura Rerum de Bède le Vénérable, qui écrivait au 7e siècle, au 8e siècle, au Moyen-Âge, traité sur la nature des choses. Bède le Vénérable traite de la rotondité de la Terre dans un chapitre qui a pour titre « Pourquoi la Terre est ronde ?» est un globe, plus exactement. « Cur terra globo similis ?» Pourquoi la Terre est semblable à un globe ? Dès le Moyen-Âge. Pour ce qui est de la trigonométrie, il y a une idée assez courante selon laquelle la trigonométrie n'a été employée qu'à partir de l'époque moderne. Or, les développements de la trigonométrie ont commencé avec les traductions de l'arabe au XIIe siècle. Et la trigonométrie sphérique en particulier a connu un assez grand développement au XVe siècle, avec un certain nombre de savants qui ont commencé à calculer les triangles. Je ne suis pas compétent sur cette matière, à partir des triangles sphériques, à cause des nécessités des observations astronomiques.
Attendez, monsieur, j'arrive parce que c'est enregistré.
Au XVe siècle apparaît l'écrit de Ptolémée qui allait, etc. D'où venait-il en quelque sorte?
Il a été traduit à Florence au début du XVe siècle, la traduction a été achevée en 1409, dans le milieu des humanistes florentins passionnés de textes grecs et qui cherchaient depuis la fin du siècle précédent, depuis la fin du XIVe siècle, à apprendre le grec. Ces humanistes ont fait venir un savant grec qui s'appelait Manuel Chrysoloras, venu de Constantinople, qui a enseigné le grec à Florence et qui avait dans ses bagages un manuscrit de la géographie de Ptolémée en grec, c'est une des hypothèses, soit un des membres de ce groupe des humanistes florentins lui-même est allé chercher à Florence un manuscrit de la géographie, laquelle était courante, enfin était connue à Constantinople depuis environ un siècle. Elle avait été déjà auparavant redécouverte à Constantinople à la fin du XIIIe siècle par un savant byzantin qui s'appelle Maxime Planude, passionné de mathématiques et d'astronomie et de textes anciens, et qui l'avait, sachant qu'elle existait, personne ne l'avait utilisé, ou très peu de savants l'avaient utilisé avant cette période, l'avait recherché dans le monde grec et l'avait sans doute trouvé, enfin là on ne sait pas exactement où il l'a trouvé, mais sans doute même à Constantinople même. Voilà. Et donc elle était disponible depuis la fin du XIIIe siècle à Constantinople. Les savants latins, les humanistes latins à la fin du XIVe siècle, désireux d'apprendre le grec et de lire tous les textes de l'Antiquité qu'ils redécouvraient et qu'ils relisaient, se sont jetés sur cette géographie parce que c'était un recueil de noms de lieux qui permettait d'identifier les noms de lieux qui se trouvaient dans les textes antiques, qu'ils soient grecs ou latins, les historiens, les poètes, etc.
Peut-être une autre question ? Non ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Monsieur.
Et l'engouement pour Ptolémée a traversé les siècles et
cela a continué, oui. Bien sûr, c'est-à-dire que dans le courant du XVIe siècle, c'est une histoire beaucoup plus complexe que je présente dans le livre dont j'ai parlé au début, plus complexe qu'on l'indique habituellement. La redécouverte de Ptolémée n'a pas constitué une rupture dans la représentation de l'espace, comme j'ai essayé de le montrer. Modes de représentation, de perception de représentation qui étaient en usage et pratiqués par les astronomes astrologues. Et après la mise à disposition de la géographie dans le monde latin au début du XVe siècle, tous les humanistes l'ont utilisé, qu'il s'agisse d'humanistes davantage portés vers la science, l'astronomie, les mathématiques, la géographie, les mathématiques, ou davantage portés vers les textes classiques, la philologie. Et puis, on s'est rendu compte assez rapidement que le monde de Ptolémée n'était pas le monde contemporain. Donc, les efforts se sont poursuivis pour tenter de mettre à jour Ptolémée pendant tout le XVIe siècle. Et c'est seulement à la fin du XVIe siècle que Ptolémée est devenu non plus un modèle pour la géographie contemporaine, mais le représentant d'une géographie dépassée, de la géographie de l'Antiquité. C'est à la fin du XVIe siècle. Mais le processus de renouvellement, de mise à jour de l'image du monde ptoléméenne s'est encore poursuivi parce qu'il restait le problème complexe des longitudes. Et c'est qu'à partir du moment où on a pu commencer à calculer des longitudes exactes que l'image du monde de Ptolémée a été rejetée dans le passé comme une image dépassée, comme une image qui avait été surmontée par des mesures plus rigoureuses. Mais qu'il ait été considéré comme une image du monde, que l'œuvre de Ptolémée était considérée comme une image du monde efficace par les contemporains, ou qu'elle ait été considérée comme une image dépassée relevant de la géographie historique, c'était toujours le modèle, de toute façon, de toute géographie scientifique, de toute cartographie scientifique.
En tout cas, c'était toujours un plaisir de vous écouter, monsieur. Merci infiniment. Bonsoir. Bonsoir à tous.